Chers frères et sœurs, la grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père au nom même de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous appelle, c'est lui qui ce matin nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Ce culte nous permet de célébrer sa présence parmi nous chaque jour de notre vie, notamment pendant ce temps de culte. Dieu notre Père, nous rendons grâce pour cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Grâce te soit rendue. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants au cantique 228. Nous allons tout d'abord chanter la première strophe du cantique 228 et nous nous levons pour chanter Dieu. Nous sommes à cette période de l'année où la communauté juive enchaîne de nombreuses fêtes religieuses. Ici même, le Yom Kippour a été célébré. Et je vous invite à vous associer aux paroles du Kaddish pour notre louange ce matin. Que le nom sublime du Seigneur soit exalté et sanctifié en ce monde. Ce monde qu'il crée selon sa volonté, qu'il établisse son règne en Israël, dans l'humanité, bientôt et de nos jours. Amen. Béni soit à jamais le nom divin, qu'il soit loué, exalté, magnifié et célébré, ce saint nom au-dessus et au-delà de toute louange, de toute action de grâce, de toute bénédiction et adoration qui de la terre monte au ciel. Amen. Que la paix céleste se répande avec la vie sur nous et sur tout Israël. Celui qui fait régner l'harmonie dans les cieux fera aussi fleurir la paix sur nous, sur l'humanité entière. Amen. Et avec le psaume 98, aux strophes 1, 2 et 3, nous pouvons prolonger cette louange.
Thank you.
Prenons place. Je vous rappelle que l'école biblique reprend et que, si vous voulez, il y a un service d'école biblique à la disposition des plus jeunes enfants, en fait des enfants, pendant le temps du culte. C'est à l'arrière, dans la salle du conseil. Recueillons-nous dans la prière. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur notre route des affamés, et nous avons plutôt pensé à notre propre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et qu'avons-nous fait ? Le plus clair de notre temps, nous sommes restés attentifs aux propres battements de notre cœur. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et c'est sur nous-mêmes que nous avons pleuré. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, à encourager, à porter vers l'avenir. Mais ce que nous avons porté, ce sont plutôt nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins les misères du monde. Et ce qui a occupé notre esprit, ce sont nos échecs et nos succès. Alors, pardonne-nous. Donne-nous la force d'offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croisent notre chemin. Amen. Chantons la quatrième strophe du cantique 228 en restant assis. En dépit des apparences, en dépit de ce que vous avez peut-être entendu, il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est le prophète Jérémie qui nous le dit. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Cela signifie, dans l'esprit du prophète Jérémie, que chaque individu est connu et aimé pour ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec le poids de son passé, avec ses rêves, ses désirs, avec sa vie personnelle, ses angoisses, ses blocages. Il y a un avenir pour chacun, déclare l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Dieu est ce qui signifie pour nous la possibilité d'un avenir plein de grâce. Alors, levons-nous pour chanter la troisième strophe du cantique 228. Le réformateur Martin Luther disait que, comme l'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour travailler. Comme l'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour travailler. Et voici en quoi consiste le travail du chrétien. Oui, aimer, bien sûr, mais avec les mots de Thomas More, entendons que Dieu nous donne une âme sainte et des yeux ouverts sur la beauté du monde. Cette capacité à voir le monde dans sa beauté, cette capacité à s'émerveiller de la création. « Ne vous épouvantez donc pas en voyant le mal, » continue Thomas More, « mais essayez de redresser les situations. Dieu vous donne une âme qui ignore l'ennui. Ne poussez donc pas trop de gémissements et de soupirs. Dieu vous donne aussi l'humour. Tirez donc quelque chose de cette vie et faites-en profiter les autres. » Dire oui à ce programme, c'est l'acte même de foi. Et ce matin, je vous invite à dire notre foi en ces termes. Nous croyons en Dieu présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu, dans l'inattendu. Nous croyons qu'il se manifeste aussi là où nous l'avons beaucoup attendu, de façon imprévue et inattendue. Nous croyons qu'il ne se laisse pas enfermer dans quelque institution que ce soit, dans quelque définition que ce soit. Nous croyons qu'il nous relève et qu'il nous libère. Nous croyons qu'il nous donne la force d'agir et de changer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de la vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et qu'il nous répond dans le présent de notre vie. Nous croyons que l'Esprit-Saint insuffle sa présence dans notre fragilité et dans la beauté de nos jours. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde que Dieu crée pour nous, dans l'attente de la nouveauté du royaume. Nous croyons, et manifestement l'évêque de Rome le croit aussi, que le salut est donné à tous, sans distinction. Nous croyons que, au milieu de la beauté de cette vie si compliquée, le salut s'annonce comme une promesse. Et nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque être humain une dignité irrévocable, que cela lui donne le courage de vivre du premier au dernier souffle. Amen. Frères et sœurs, chantons au cantique 241 les strophes 1, 2 et 3 du cantique 241. Asseyons-nous. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour le don de ta parole que nous essayons de discerner parmi les Écritures qui nous ont été confiées. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. Ouvre-nous à cette parole, de sorte que nous puissions choisir la vie qu'elle désigne. Et guide-nous par ton esprit, pour que nous puissions vivre le bonheur que tu désires nous offrir, et dont tu espères un partage universel. Amen. C'est dans le prophète Jérémie que je vais vous lire deux versets qui se trouvent au tout début du livre de Jérémie, dans le premier chapitre. Je vais vous lire les versets 11 et 12. Il s'agit en quelque sorte de la vocation du prophète Jérémie, qui est un jeune garçon, pas quelqu'un d'âgé comme moi, mais un jeune garçon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Frères et sœurs, chantons la deuxième strophe du cantique 228 avant de nous mettre nous aussi devant ce spectacle de la branche d'amandier. Cantique 228, strophe 2. Chers frères et sœurs, vous avez tous reçu la feuille d'annonce pour les activités de notre Église cette semaine. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à la prendre en sortant du temple tout à l'heure. Vous y verrez la photo qui illustre cette semaine cette feuille d'annonce. Vous pouvez l'observer attentivement, la mettre devant vos yeux. Et je serai presque tenté de faire comme ce professeur de lettres dans le film « Le cercle des poètes disparus » en vous demandant non seulement de vous mettre debout sur les bancs, mais de déchirer cette feuille, au moins l'illustration. Je précise que je dis cela après en avoir parlé avec notre secrétaire qui a placé cette photo. Mais c'est juste pour vous dire qu'évidemment, vous pensez que c'est la meilleure illustration qui soit, puisque nous avons passé le 21 septembre, en conséquence de quoi il est normal de célébrer l'automne et de montrer des feuilles mortes qui se ramassent à l'appel. Et ce n'est pas l'appel du Seigneur. Que l'automne ait pris ses quartiers d'hiver, oserais-je dire, n'est pas une raison suffisante pour ne pas célébrer le printemps. Et au fond, voilà ce que j'aimerais que nous retenions ce matin. Ce n'est pas parce que le calendrier annonce que l'automne est arrivé, que ce doit être autant pour autant l'automne de notre vie. Il va de soi que les rédacteurs bibliques n'ont jamais cherché à produire des manuels de météorologie ni des guides de saison climatique. Il est vrai qu'ils ont mis à profit néanmoins ces aspects de la vie, ces saisons, ces temps et toutes choses qui constituent notre vie quotidienne pour développer des métaphores qui parlent de notre vie quotidienne. Et ainsi, pensons dans l'Évangile de Marc, par exemple, à Jésus qui se trouve devant un figuier, dont le rédacteur précise que la scène se situe à un temps qui n'est pas le temps de la saison des figues, et néanmoins, Jésus constate que ce figuier est dépourvu de figues et il ne s'en félicite pas. Bien au contraire, il va plutôt avoir des paroles assez désagréables, annonçant que plus personne ne se nourrira de ce figuier sans figues. On se serait dit, mais c'est naturel quand même qu'un figuier n'ait pas de figues quand ce n'est pas la saison des figues. Mais précisément, ce que nous annonce l'Évangile, qui n'est pas limité au seul texte appelé Évangile, mais qui retentit dans l'ensemble de la Bible, c'est que la grâce est contre nature, ou du moins qu'elle ne se soumet pas à l'ordre de la nature. Cela montre que Jésus propose de ne jamais se conformer à l'ordre naturel des choses. Cela montre que Jésus ne propose pas de conformer notre vie à ce que la sagesse populaire tient pour juste, évidente, parce que ça s'est toujours passé comme ça, que ça a toujours été vécu comme ça. L'Évangile, et nous le voyons avec Jésus, mais nous le comprenons dès Jérémie, l'Évangile vient faire irruption dans une mécanique bien huilée en proposant un autre ordre du monde. Jésus révèle que le figuier qui symbolise le temple est appelé à être fécond en toutes circonstances et pas simplement le dimanche matin ni pendant les seules fêtes carillonnées. L'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour travailler et la vocation chrétienne n'est pas de se recoucher après le petit déjeuner. Jérémie va découvrir qu'il est appelé à devenir prophète. On a souvent une très mauvaise conception, une très mauvaise idée de ce qu'est être prophète. On se dit le prophète, c'est celui qui peut prédire l'avenir. Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est assez inexact. Ce n'est pas quelqu'un qui va lire dans une boule de cristal ou dans les astres la suite de l'histoire. Il ne fait pas de la divination. La divination est d'ailleurs plutôt récusée par les rédacteurs bibliques. Non, ce qui caractérise le prophète, c'est qu'il ouvre les yeux pour regarder vraiment et qu'il dit ce qu'il voit. Vous voyez que c'est simple l'Évangile. Simple comme l'Évangile. Ouvrir les yeux, regarder vraiment et dire ce qu'il voit. C'est toute la différence, je n'arrête pas de le répéter, mais je crois que c'est extrêmement éclairant, c'est toute la différence entre Sherlock Holmes et le docteur Watson. Sherlock Holmes, qui ne cesse de dire au docteur Watson, « Vous regardez, mais vous ne voyez pas. » Watson est à l'école de Sherlock Holmes pour apprendre à devenir prophète, voir, comprendre et pouvoir rendre compte de ce qu'il voit et comprend. C'est cela la vocation prophétique, être capable d'ouvrir les yeux vraiment sur notre monde, le comprendre et de pouvoir partager cela avec les contemporains. Et c'est de cette vocation prophétique que j'aimerais vous parler maintenant. Ce que Jérémie voit, c'est donc une branche d'amandier. Et nous avons suffisamment d'amandiers dans notre région pour savoir à quel point l'amandier fait partie de ces arbres qui fleurissent parmi les premiers et par conséquent annoncent le printemps. L'amandier, shaked en hébreu, est de la même famille que le verbe hébreu shakad, qui signifie veiller. C'est la raison pour laquelle ce passage biblique dit « Tu as bien vu qu'il s'agit d'une branche d'amandier, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Il y a en fait un jeu de mots dans le texte hébreu que nous avons du mal à saisir dans notre traduction. Mais l'idée est la suivante. Tu vois une branche d'amandier, et cette branche d'amandier qui annonce le printemps a aussi pour caractéristique d'exprimer le fait de veiller. C'est tout l'inverse de celui qui va se recoucher après le petit déjeuner, comprenez bien. Et c'est le même verbe que ressuscité dans le texte grec de la Septante. Éveillé. Veiller, éveillé, c'est le verbe egeiren en grec, qui est l'un des deux mots utilisés pour parler de la résurrection. C'est ça le printemps. Le printemps, c'est la résurrection de la nature. On s'attend à ce que ça soit fini. Un amandier. Un amandier à la fin de l'hiver, on aura tendance à le couper à la racine. Mais les bourgeons arrivent et il reblanchit, comme nul ne pouvait l'espérer. Sauf le prophète qui voit justement cette capacité de l'arbre a priori mort à reprendre vie. Parce qu'en fait, il ne l'avait pas perdu. Mais la vie était enfouie sous une écorce semblable à l'écorce de la mort. C'est la branche qu'il faut avoir à l'œil pour apercevoir le premier frémissement du printemps. La vie qui reprend le dessus après l'hivernage qui donne l'impression d'avoir assassiné la nature. La nature, quoiqu'immobile, quoiqu'ayant l'apparence de la mort, contient encore en elle tout ce qu'il faut pour que jaillisse à nouveau la vie et que change la couleur du paysage et l'allure des lieux. Et c'est à cela que Jérémie doit être attentif, dans un contexte historique qui est un peu comme la fin des temps. Nous sommes à cette période de l'histoire d'Israël où le royaume du Nord, Samarie, est déjà tombé depuis 722. Et là, nous sommes à l'époque où l'empire de Babylone est extrêmement fort, extrêmement menaçant. Et d'ailleurs, Jérusalem tombera, le temple de Jérusalem sera lui-même détruit et la population en partie déportée sur les rives du fleuve Kébar à Babylone. Néanmoins, Jérémie est ce prophète qui perçoit que ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Jésus aussi d'ailleurs, est quelqu'un d'attentif. Voir tout ce qui annonce le retour du printemps et l'annoncer. Tout ce qui indique la vie capable de reprendre le dessus. C'est cela, être prophète. Ce n'est pas faire des paris sur l'avenir. C'est de lire les signes du temps, les interpréter et les rendre disponibles. C'est cela aussi la vocation prophétique de l'Église. C'est à cela que nous sommes appelés si nous prenons au sérieux les textes bibliques et si nous considérons que l'exemple de Jérémie a quelque valeur pour nous. Faire nôtre cette mission qui a été confiée autrefois au personnage Jérémie. Dit autrement, il s'agit d'être sensible à tous les frémissements. Il s'agit d'être sensible à toutes les initiatives qui vont dans le sens du divin, puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose que de repérer l'action de Dieu dans notre histoire. Nous l'avons entendu, le deuxième verset dit que Dieu accomplit sa parole. Et voilà ce que le prophète doit voir. Et pour cela, il lui faut être sensible à la présence de Dieu dans le monde. On est tous d'accord avec ça. Le chrétien est un être sensible à la présence de Dieu dans le monde. Mais comment ça marche ? C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, mais la vérité est qu'on est vraiment infichu de repérer Dieu dans notre histoire. On le repère après coup en disant « ça, c'était vraiment divin ». Mais le prophète le repère dans le présent, pas dans le passé. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est là que se joue la véritable sensibilité. Alors, comment être sensible à la présence de Dieu dans le monde? Comment voir Dieu dans le monde? Eh bien, le plus simple est encore de regarder le monde avec le regard de Dieu, tout simplement. Être prophète, c'est être les yeux de Dieu dans le monde. Peut-être vous souvenez-vous de l'une de ces répliques mises dans la bouche de ce prêtre dans le film Amen de Costa Gavras. Il va, pour être déporté avec les Juifs dans un camp d'extermination, il choisit lui-même d'accompagner cette population. Pourquoi ? Pour être les yeux de Dieu dans l'enfer. Eh bien, pratiquement, nous pouvons être les yeux de Dieu en regardant le monde à partir du moment où nous avons corrigé notre vue. Et pour corriger notre vue, c'est simple également. Rien de tel que les vers correcteurs qu'on appelle la Bible. La Bible pour corriger notre vue, pour réajuster notre focale. La Bible a été rédigée par des personnes qui ont essayé de voir le monde du point de vue de Dieu. Et du coup, il nous entraîne à voir le monde avec les yeux de Dieu. Ce sont des rédacteurs qui ont essayé d'être les yeux de Dieu, et pour cela, ils ont regardé la vie à la lumière de ce qu'ils estimaient être le plus sacré. Exercice pratique cet après-midi, plutôt que de faire la sieste après le repas, vous ouvrez votre Bible au psaume 104. Le psaume 104, c'est un psaume de louange, et vous verrez un psalmiste, un croyant, qui célèbre le monde qu'il a sous les yeux. Mais chemin faisant, vous découvrirez peut-être qu'il ne le fait pas simplement en parcourant le paysage de ses yeux, non. Il le fait à la lumière du premier récit de la Genèse. Le psaume 104 est entièrement construit sur la structure de Genèse 1, en fonction des différents jours de la création. Cela signifie que sa façon de regarder le monde est éclairée, éduquée par le grand mythe de Genèse 1. Qui donne du sens à ce qu'il voit. Parce qu'évidemment, regarder la nature, ce peut être la voir d'une façon très différente du regard de Dieu. On peut être subjugué par le spectacle que l'on voit, sans pour autant le regarder à la manière de Dieu. Souvenez-vous peut-être de l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center, qui avait été un spectacle effarant. Et une polémique avait eu lieu autour de ce qu'avait dit un chef d'orchestre allemand, je crois, en disant que c'était un spectacle fascinant. Force est de constater que nous avions certainement passé de nombreuses minutes à voir et à revoir ce spectacle, et lui avait dit qu'il y avait une sorte de beauté. Et si nous ne structurons pas notre regard, si nous n'avons aucun critère pour apprécier ce que nous voyons, le spectaculaire peut nous donner l'impression qu'il y a du divin. Or, le théologien, chrétien en tout cas, ne considérera pas qu'il y a dans cet effondrement des tours et d'autres attentats quelque chose qui relève du divin, dans les conséquences peut-être. Avec la solidarité qui a eu lieu, mais pas dans cet effondrement qui était effectivement spectaculaire, fascinant, subjugant par bien des aspects. Cela signifie que le prophète ne regarde pas la nature d'une manière neutre. Il regarde comme Dieu regarde avec une intention qui va dans le sens de quelques aspects dont l'Évangile est porteur. Ce qui compte pour le prophète, c'est de voir l'acte de la création à l'œuvre dans le monde. Créer est sacré pour le texte biblique. Les rédacteurs en ont fait d'ailleurs un critère pour regarder ce qui, dans l'histoire, va dans le sens du monde. Lorsque vous voyez un acte de création, vous pouvez vous dire qu'il est fort probable que cela aille dans le sens du divin. Il y a d'autres critères possibles. Par exemple, pensons au prophète Amos. Le prophète Jérémie également dénonce des situations qui sont odieuses, autrement dit qui déplaisent à Dieu, à partir du critère de la justice, tel qu'il sera élaboré dans le livre du Deutéronome. C'est un autre critère, la justice. Ces deux prophètes ne voient pas ce qui les arrange, ils ne sont pas attirés par ce qui leur fait plaisir. Il voit l'exigence divine dans l'histoire humaine, ou plus exactement, il confronte ce qu'il voit à la justice telle qu'elle est révélée par la réflexion des rédacteurs bibliques qui y ont réfléchi d'une manière théologique, c'est-à-dire en prenant un point de vue universel plutôt qu'un point de vue particulier. On pourrait même dire que le rédacteur deutéronomiste prend un point de vue universel qui est celui du plus faible, la veuve, l'orphelin et l'étranger. C'est à partir du plus faible que le rédacteur deutéronomiste élabore sa conception de la justice sociale, de façon à ce que tout le monde soit au bénéfice de la justice. Un autre critère, après la créativité et après la justice, ce pourrait être la liberté. La liberté qui est en tête du décalogue. Sans la liberté, les paroles de Dieu ne peuvent pas être accomplies. Et c'est la raison pour laquelle Jésus souligne ce qui va dans le sens de la libération des personnes, et cela explique le refrain de nombreuses rencontres qu'il fera, « Ta foi t'a sauvé ». Quand Jésus dit « Ta foi t'a sauvé », il est témoin des situations de réussite. Il y a quelqu'un qui était en grande souffrance, quelqu'un qui était exclu, isolé, qui était en sous-régime, quelqu'un dont la vie n'était plus que l'ombre d'elle-même, et Jésus constate qu'il y a eu un changement dont cette personne a été partie prenante, qui a renversé la vapeur et qui lui permet désormais de vivre pleinement. Il souligne que l'amour de la vie de certaines personnes l'a emporté sur ce qui retient la vie captive. C'est ça la foi. La foi, c'est aimer la vie, c'est faire confiance en la grâce qui est toujours le meilleur avocat de la vie. Jésus souligne le désir d'humanité de ces personnes qui l'ont emporté sur ce qui défigure l'humanité. Des personnes qui étaient insoumises à l'ordre des choses. Des personnes qui étaient insoumises au cours naturel des choses. Parce qu'il était naturel que l'estropié soit exclu de la communauté. Il était naturel que l'aveugle n'ait pas sa place au sein du temple. Il était naturel que les femmes soient reléguées un peu au loin. Il était naturel que l'étranger n'ait pas part au royaume. Jésus, dans les évangiles, constate cette liberté d'être de toutes ces personnes qui ont saisi la grâce, qui l'ont prise au sérieux et qui en ont fait le moteur de leur existence et qui ne se sont pas recouchés après leur petit déjeuner. Il met en évidence la liberté qui a donné la possibilité de faire preuve d'audace en s'élançant vers Jésus, par exemple, parfois en bousculant les disciples qui voulaient faire obstacle. L'audace de ces personnes qui se sont adressées à lui, parfois en l'interpellant, en franchissant les barrières sociales, religieuses, en transgressant la bienséance de l'époque, comme cette femme qui va humidifier les pieds de Jésus de ses larmes avant de les essuyer avec ses cheveux. On est d'accord que ça ne se fait pas quand même. Il est heureux qu'elle l'ait fait. Tout cela, le prophète est appelé à le voir, parce que tout cela est le signe de l'action de Dieu dans notre histoire. Ce qui va dans le sens de la créativité, d'autres parleraient d'innovation. Ce qui va dans le sens de la justice, ce qui va dans le sens de la libération. Vous pouvez repérer d'autres critères, pourvu qu'ils soient instruits par votre compréhension des textes bibliques. Voir et répondre, parler, c'est le deuxième point. On ne peut pas être prophète simplement en se contentant de voir. Sinon, ce serait une curiosité mal placée, ce serait du voyeurisme. Vous ne pouvez pas simplement bouger un peu le rideau de votre fenêtre et regarder ce qui se passe de l'autre côté de la cour. Être prophète, ce n'est pas du voyeurisme. Être prophète, c'est porter auprès des autres ce dont on a été témoin, et du coup devenir témoin soi-même. C'est pour cela qu'il y a souvent cette campagne de l'Église « témoin de l'Évangile ». Pas d'égocentrisme, pas de narcissisme, pas de salut juste pour soi. Être prophète, d'ailleurs c'est le sens du mot « prophétiser », c'est porter auprès d'eux ce qu'on a reçu. Proferein. Il y a le photophore qui porte la lumière, il y a le prophète qui porte auprès d'eux. Le prophète est donc une vigie, qui est vigilant, qui repère les frémissements de la vie. Et la vigie, ensuite, alerte. Nous sommes les vigies de notre société. Nous sommes rendus sensibles à l'action de Dieu par la lecture de la Bible, et nous sommes appelés à dire ce dynamisme créateur que nous voyons effectivement à l'œuvre pour que ce que nous avons vu ou lu ne reste pas lettre morte, que d'autres puissent en profiter. Être prophète, c'est donc répondre aux situations. Ici, être prophète, c'est répondre à l'Éternel « Je vois une branche d'amandier ». Si nous étions capables, collectivement ou individuellement, de dire toutes les branches d'amandier que nous voyons sur notre route, je vous assure que les médias s'en porteraient mieux. Et on aurait beaucoup plus de plaisir à voir le journal de 20 heures. Aujourd'hui, être prophète, c'est répondre, donc être responsable. C'est dire la vie à chaque fois qu'elle est en train de se frayer un petit bout de chemin. Pour l'encourager, pour que ce chemin débouche. Et c'est ainsi que nous pouvons, par un effet de boule de neige finalement, ouvrir les yeux de nos contemporains sur les choses admirables qui se vivent et qui se font. C'est ainsi que nous pouvons attirer l'attention de notre prochain sur Dieu qui agit dans notre histoire, c'est-à-dire sur toutes les initiatives qui sont prises dans toutes les strates de la société, dans tous les domaines de la vie et qui vont dans le sens de l'espérance de Dieu, telle qu'elle se manifeste à travers les textes bibliques et dont je vous ai donné trois exemples parmi d'autres avec la créativité, la justice et la liberté. La vocation de Jérémie, c'est le texte que je vous ai lu. Vous voyez, ça tient à pas grand-chose. C'est Dieu qui interroge Jérémie sur ce qu'il voit. Et il n'est pas impossible que c'est la première fois qu'on pose cette question à Jérémie. Et que Jérémie, du coup, se trouve en situation de se demander ce qu'il voit. Et si nous faisions cela, tout simplement, donner du sens à ce que nous voyons, nous demander ce que signifie ce que nous voyons, ce que nous observons, et le partager alentour. Dieu a interrogé Jérémie pour susciter chez lui un enthousiasme, au sens strict du terme, le fait d'être en théos, en Dieu, de voir avec les yeux de Dieu. Non pas simplement voir les choses défiler, mais saisir ce que nous voyons. Et les rédacteurs bibliques ont mis en mots les visions des prophètes pour en faire autant d'épopées, à même de ressusciter le désir de s'engager personnellement dans de telles dynamiques. Si les prophètes rendent compte de ce qu'ils voient, et que ce qu'ils voient est vu à la lumière de Dieu, alors on sort de la banalité du bien et du mal pour entrer dans l'extraordinaire, le sublime de Dieu. Et ça, c'est propice pour enthousiasmer notre monde contemporain. Exemple, exercice très très pratique et tout simple. Nos contemporains montpelliérains sont habitués à voir en quelque sorte les décombres qui se trouvent sur le rectangle entre la rue Saint-Barthélemy, la rue Bruès, le boulevard Gambetta, une sorte de champ de ruines, Waterloo, morne plaine. Et on se dit, Ça, c'est mort, définitivement mort. Et depuis le nombre d'années que c'est comme ça, enfin, c'était pas comme ça en ruine depuis des années, mais en tous les cas depuis des semaines et des mois, que même le tramway ne pouvait plus passer à un moment donné, on se dit, mais il ne pourra rien en sortir de bon, c'est comme de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de Nazareth ? Nous sommes précisément prophètes. Si nous disons de quelle manière ce frémissement opéré par la grue jaune qui s'y trouve est un acte divin, en ce sens où il y a là la possibilité de l'innovation, de la justice et d'une plus grande liberté pour les personnes qui seront accueillies dans 18 mois. Il y a là matière à être prophète pour notre société montpelliéraine. Mais de grâce, n'ayons pas le regard fixé simplement sur les réalisations de notre cher protestantisme. Le point de vue de Dieu est un point de vue universel qui ne saurait s'arrêter à ce que nos œuvres et nos mouvements sont capables d'accomplir. Nous sommes là pour voir les branches d'amandier partout où elles se trouvent, même chez la concurrence. Et il nous appartient d'en rendre compte, car c'est l'œuvre de Dieu. Les rédacteurs bibliques ont mis en scène des récits de succès. Ils ont décrit la vie divine qui peut l'emporter contre toute attente, pour que nous nous mettions à cette école-là et que nous soyons capables nous-mêmes d'être colporteurs de ce genre de bonnes nouvelles. La vie qui peut l'emporter contre toute attente, contre la nature des choses, contre le chaos, contre l'entropie. Les rédacteurs bibliques ont rédigé des épopées pour nous donner le goût de la vie portée à hauteur de l'espérance de Dieu, pour nous donner le goût d'entreprises qui ont l'ambition de Dieu, pour favoriser tout ce qui peut concourir à l'œuvre de Dieu. Dieu qui rend le monde infiniment plus vivable et qui nous rend infiniment plus humains lorsque nous sommes enthousiastes. Amen. Levons-nous pour chanter le cantique 611. Au cantique 611, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. À l'issue de ce culte, nous serons invités à rester un petit peu autour d'un verre fraternel qui sera organisé de façon à ce que nous puissions faire connaissance, accueillir les personnes que nous ne connaissons pas. Au fond, c'est très simple de savoir qui est à nouveau dans la paroisse. C'est une personne dont vous n'avez jamais vu le visage. Ou quelqu'un dont vous ne connaissez pas le prénom. Donc vous voyez, on a de la marge de progression. Donc voilà, gardons quelques minutes pour pouvoir faire connaissance les uns avec les autres. Par les temps qui courent, c'est quand même extrêmement appréciable. Dans notre semaine, j'attire votre attention sur le jeudi 30. À 18h, il y aura le deuxième cours public sur l'Ancien Testament donné par Danny Noquet. Et je vous invite à lire Genèse 41 pour bien vous y préparer. C'est à 18h à la faculté de théologie, avenue Villeneuve d'Angoulême. Le samedi 2, il y aura à 9h30 la pose de la première pierre du carrousel. Et l'entrée se fera par la rue Saint-Barthélemy. Moi, je trouve que c'est extrêmement programmatique quand même. J'en profite pour vous dire que c'est une idée que j'aimerais partager avec vous. L'an prochain, nous serons en 2022. Ce serait peut-être bien que pour les, non pas 50 ans du pasteur, mais les 450 ans de la Saint-Barthélemy, on fasse quelque chose qui aille dans le sens, non pas de la commémoration de nos blessures du passé, mais sur notre capacité à ressusciter et aller dans le sens de la vie. Oui. Être capable de dire que la semaine dernière, par exemple, nous avons eu une rencontre œcuménique, catholique, protestant et orthodoxe, qui s'est passée de manière extrêmement fraternelle. Et je pense que ce peut être un exemple extrêmement utile et intéressant pour notre société française. Vous voyez, ça peut être ça aussi, être prophète, voir qu'il est possible de ne pas rester arc-bouté sur des querelles intestines du passé, mais de pouvoir célébrer la vie ensemble. Donc c'est à 9h30, rue Saint-Barthélemy. À 14h30, dans la salle du conseil, il y aura le cercle Évangile et Liberté. Il sera animé en présence de Soeb Bencher, et c'est lui qui introduira le thème « Le statut exceptionnel de Jésus » dans le Coran. Donc c'est une excellente occasion pour d'abord être à l'écoute d'un représentant de la communauté musulmane qui a particulièrement étudié sa tradition et de pouvoir engager un dialogue sur Jésus dans l'islam, dans le Coran en particulier, et puis notre Jésus, ou pour le dire avec Louis Simon et Johann Sebastian Bach, mon Jésus. Le lendemain, dimanche 3 octobre à 10h30, culte ici même, et ce sera l'occasion de célébrer le centenaire de la présence de la faculté de théologie protestante à Montpellier, après qu'elle eut quitté puis Laurence, et après qu'elle eut quitté cette bonne ville de Montauban. Comme quoi, finalement, on peut quitter Montauban. Il y aura le jour même, dimanche 3 octobre, une journée organisée par l'Église verte. Donc à partir de 12h30, il y aura un pique-nique à la Maison de la Nature. À 14h30, il y aura un film documentaire « Chrétien chlorophylle, gardez le jardin ». Ce sera à l'église œcuménique Saint-André de Morin. On aurait pu appeler ça un temple œcuménique, mais c'est écrit « Église œcuménique », ce qui est juste sur le plan étymologique, parce que « église », enfin l'église, c'est le « templum », et donc c'est le bâtiment, dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, le temple serait le bon mot, plutôt que le mot « église », qui est l'ecclésia, le rassemblement des personnes. Mais un jour, la société française sera vraiment protestante. Et il y aura une célébration œcuménique à 16h, toujours à Saint-André de Morin, ce qui sera aussi l'occasion de célébrer les 50 ans de la construction de ce bâtiment. C'est un simultanéum à la fois église catholique, église protestante. Et à 18h, un spectacle Écolo Swing avec la compagnie SketchUp de Marseille, cette fois au théâtre Jacques Coeur de Lattes. Voilà, vous avez de toute façon toutes les informations sur votre feuille d'annonce. N'oubliez pas de coller une feuille du printemps en guise d'illustration, et comme cela, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, selon Dieu. C'est maintenant le moment de l'offrande. C'est l'occasion de faire reverdir les finances de notre Église, qui ne se porte pas trop mal, mais ça pourrait aller mieux. Profiter de ces jeux d'orgue, c'était aussi profiter du retour de Dorine Neveu parmi nous, ce qui est bien agréable et je la salue en notre nom, même si elle ne peut utiliser que le récit, le petit clavier du haut, parce que l'orgue est quand même un peu au bout de sa vie. Mais un jour viendra le printemps où cet orgue en construction sera sur l'ensemble de la tribune et vous ne voudrez plus quitter le temple subjugué par l'innovation que constituera le buffet de cet orgue, la justice, ou du moins la justesse des notes de cet orgue, et la liberté avec laquelle les organistes joueront dessus. Unissons-nous maintenant dans la prière, frères et sœurs. Dieu notre Père, notre monde devrait être un jardin d'Éden. Il est souvent un désert pour beaucoup d'entre nous. Désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Notre prière consiste à te demander une fois de plus d'être stimulé dans le sens de ta créativité, pour que nous ménagions au moins dans ce monde des oasis pour ceux qui en ont besoin. Tu es la source d'eau vive, c'est toi qui les délivreras de la sécheresse, mais comment en profiterait-ils si nous ne voyons pas cette source d'eau vive et si nous ne leur indiquons pas? Rends-nous responsables. Donne-nous l'intelligence et la force de répondre aux situations que nous rencontrons chaque jour de manière à être tes prophètes pour nos contemporains. Il y a des situations devant lesquelles nous nous sentons particulièrement démunis. Nous sommes sensibles à ce qui arrive à nos prochains. Nous ne savons pas vraiment trouver les mots ni les idées pour répondre à ces situations. Mais au moins pouvons-nous les nommer. Pensez aux enfants abandonnés. Pensez aux personnes délaissées ou maltraitées. Pensez aux personnes désœuvrées, découragées. Pensez aux parents sans affection. Pensez aux mourants sans consolation. Oui, appelle-nous à être prophètes et renouvelle notre vocation prophétique pour que nous soyons en mesure de répondre à tous ces défis, à toutes ces situations, en coopération avec nos frères et sœurs. Et quand tu veux nous utiliser pour être effectivement des prophètes à la manière de Jérémie, prophètes de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité, la compréhension et l'espérance sans lesquelles nous ne pourrions être les témoins de ton amour parmi les hommes. Accorde-nous tout cela pour l'amour de Jésus, notre Maître, lui qui nous a enseigné à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit, en tout temps et en toutes circonstances. Amen.